pass Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. That is hostile and Lenny Wilkins.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Saison 3, déjà l'épisode 17. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite. 94.
On commence bien.
On recommence.
94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est présent sur Facebook et Instagram. Le compte c'est Money-8Time60. N'hésitez pas à nous y rendre visite. Et par ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en streaming sur www.graphique.net et même la podcaster sur Spotify. Merci Baptiste.
Suspecting stranger had better know the truth of wrong from right.
Ça y est, la NBA a basculé en mode duel. Deux équipes, deux villes, deux franchises mythiques et deux superstars. San Antonio, New York, New York, San Antonio. Cowboy texan contre pègre new-yorkaise. Un extraterrestre et sa bande contre un gang du Bronx. On va le dire clairement, il n'y avait pas de plus belle affiche possible. Alors désolé pour les fans du Thunder et des Cavs, mais on n'a sans doute pas connu autant de hype sur une finale NBA depuis au moins 10 ans. Alors en route pour une émission spéciale où deux monuments vont s'affronter, Fort Adamo et l'Empire State Building. Au programme de cette émission, donc l'actu de la balle orange, comme d'habitude, un retour sur les finales de conférence de la chute du champion au coup de balai new-yorkais, le basket et WAM, Spurs Knicks 27 ans plus tard, petite pause musicale, le dossier Bella Imperatoria focus sur les NBA Finals 2026, on va prendre le temps qu'il faut, et notre rubrique Sneaker Pimps, quand le foot rencontre le basket avec la collaboration de Jordan Brand, PSG. Un buzzer beater pour finir, hein, parce que sans ça, ce serait pas marrant. Pas de doublé depuis 2018, pourquoi conserver son titre est devenu mission impossible en NBA. Et pour m'accompagner, une équipe de justiciers impressionnante. Il casse les côtes plus facilement que Chuck Norris. Le Walker Texas Ranger Picard est heureusement plus vif que ce bon vieux Chuck, surtout depuis qu'il nous a quittés.
De moins en moins vif, ouais.
Ah ouais, paix à son âme. Mehdi !
Salut les potos ! Go Spurs, go ! Go Spurs, go !
Détroit normalement.
Ouais. On est d'accord.
C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Détroit encore.
On y va.
Bon, entre deux ruelles coupe-gorge délabrées de l'East Side de l'Oise, il protège les femmes seules des Patrick Bruel qui rôdent la nuit. Notre chef à nous, c'est Buffa.
Ah ouais, je suis justicier maintenant. Ouais. D'accord, merci.
Starsky et Hutch ont demandé leur mute quand ils l'ont vu débarquer en ville. Sa bagnole tient dans leur coffre, mais ses uppercuts ont laissé plus d'une star KO. Le pitbull de Compiègne ne lâche jamais sa proie, Bruno Way.
Salut.
Le Davy Crockett de la Croix, capable de tenir la salle Rancinang aussi bien que Fort Adamo et de résister à l'assaut de 500 licenciés en furie, Baptiste.
Salut tout le monde.
Davy Crockett.
Allez, il fallait se trouver un héros texan, ça compte pas les rues.
C'est clair, ouais.
Ok, entre deux immeubles du centre-ville, lui, on peut admirer ses magnifiques pompes qui portent plus de technologie que l'armure d'Iron Man, le Tony Stark du style, Mathieu.
Salut tout le monde.
Et enfin, il est aussi clairvoyant que Daredevil, c'est dire, et bondit d'un building du Hell's Kitchen de Compiègne à un autre, l'homme sans peur, notamment celle d'assumer sa préférence pour les Knicks. Wow.
Bravo.
Bravo, bravo.
Et puis, on a une invitée surprise, Marie, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Marie.
Salut.
Bon Marie, t'es pour qui? Les Spurs?
Les Spurs.
Ok, d'accord.
Merci Marie.
On parle plus.
Ok. Ça va être la baston cette émission.
Ça fait beaucoup de Spurs autour de la table quand même.
Ah non, oui. Des fans des Knicks. Hein, Buffin?
Oui, bien sûr qu'il est
Knicks. Mais lui, il connaît pas les règles alors. C'est pas grave. Oh.
C'est pas ton équipe que tu vas parler. Allez, jingle.
Vas-y, c'est parti. L'actu de la balle orange. Aujourd'hui, on ne parlera pas ici du jeu trop fun qui nous a bien fait marrer, mais déjà en rupture de stock, le Dr Maboul version SGA.
C'est énorme ça.
Qui n'a pas apprécié la pub pour laquelle son compatriote Dylan Brooks, qui peut être très drôle finalement, hein, a joué les VRP. Les avocats de Shea ont sommé l'entreprise de retirer toute exploitation légèrement orientée et ironique de l'image du double MVP.
C'est vrai ça?
Ouais,
c'est vrai.
Dans ce remake du jeu best-seller.
Oh, c'est américain.
Oh là là là.
Ils ont pas du
c'est
goût,
canadien
hein.
Surtout.
Ouais. Quand tu touches une partie du corps de la star, un coup de sifflet retentit. Alors, parfois, faire preuve d'autodérision, c'est la meilleure façon de se défendre. Bon bah, pas pour Shea, qui n'a pas fini de s'en prendre plein la tronche sur sa capacité à flopper. Flopper, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que ça veut dire
tomber.
Voilà.
Comme les Italiens.
Plonger.
Vous voyez le foot, les Italiens.
Ah oui, donc on va pas l'énerver. Ah, donc on va se fâcher avec tout
c'est
le monde. Quoi.
C'est ça.
C'est la guerre. C'est bien la guerre. Et on va commencer sur un truc qui met à peu près tout le monde d'accord. L'Olympiakos champion de l'Euroleague.
Ah.
Fournier remporte en France.
Bravo.
On est content pour lui. Il avait déjà déclaré par le passé que s'il devait revenir en Europe, ce serait pour l'Olympiakos. Hein, séduit par la ferveur unique des supporters du Pirée et la culture de la gagne du club grec. Donc face au Real Madrid, l'Olympiakos l'a emporté 92-85. C'était le 24 mai dernier, donc juste après l'émission, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, peu de choses près. Mettant fin à 13 ans d'attente pour le club qui s'adjuge son quatrième titre européen. Alors Evan Fournier a été le grand bonhomme de ce sacre après un match haletant contre un Real Madrid, menaçant jusqu'au bout et porté par un Super Mario Ezonja en feu, hein, le meilleur marqueur du Final Four d'ailleurs. 20 points à 6 sur 12 au tir, dont un précieux 3 sur 7 à 3 points, 5 rebonds et 4 passes. Fournier, sacré MVP de la finale, obtient enfin un titre majeur en club après 12 ans en NBA.
Et c'est mérité.
Ouais.
Bon, très mérité. Le Real a très mal géré la fin de match.
Ils avaient bien commencé pourtant. Ils avaient pris, je ne sais plus combien de points d'avance.
12.
En tout cas, voilà.
Très content pour Fournier qui.
Grosse ambiance.
Mérité, ouais.
Grosse ambiance
dans sa carrière. Enfin, il gagne un truc.
On passe à un truc moins rigolo. Rick Adelman nous a quittés. Ouais. C'est lui qui a conduit les Blazers 2 fois en finale et qui a transformé les Kings en bonne équipe, c'est dire l'exploit. Ouais. C'était un à 79 ans, c'est le père de David Adelman, l'actuel coach des Denver Nuggets. Donc Rick Adelman, même s'il ne sera jamais parvenu à décrocher un titre, aura néanmoins inscrit son nom parmi les 10 coachs les plus victorieux de l'histoire de la Ligue, en tout cas sur trois décennies. Donc un grand monsieur qui...
C'est le Hall of Fame aussi, hein, je crois.
Ouais, je crois qu'il...
La grande équipe des Kings, quoi. Les Kings qui faisaient rêver, quoi. Avec Jason Williams, enfin...
Weber, Pija, Stojakovic...
Ah, les Kings de 2004. Non, 2004.
Ouais. Je crois. Qui sont tombés sur un os qui s'appelait les Lakers.
Ouais. Ou des arbitres aussi qui sont tombés.
Ah, on va en reparler.
Encore après, les arbitres.
Tout le monde en veut aux arbitres. Quoi.
Non, on parlera pas de Détroit ce soir. Oh, c'est pas possible. Et vous voulez me lancer dessus, mais non. Je résiste.
On passe à la news suivante. Sean Sweeney coachera le Magic. Ou quand un coach défensif estampillé Spurs Academy récupère une équipe dont la principale faiblesse est offensive. Ok, on n'a pas tout compris. C'est pas grave. Hein. Alors, est-ce que vous saviez, les gars, par contre, qu'environ un tiers des franchises de la NBA possèdent aujourd'hui dans leur staff technique un entraîneur qui a été formé ou est passé par l'organisation.
L'arbre généalogique de Greg Popovich.
Ça, c'est fou, ça.
Ah, bah oui, mais c'est...
Bon, donc,
Mike Brown, en finale. Ouais. Les deux coachs finalistes sont originaires.
Des produits.
Produits des enfants de Popovic.
Par c'est contre, dire l'influence de cette franchise.
Vous avez entendu la rumeur que ça ferait venir peut-être Yanis à Orlando parce qu'apparemment, il s'entend bien avec.
Alors, on n'est plus à une rumeur plus.
Ouais. Et Yanis.
Sean Sweeney, apparemment, c'est un mec qui est bien aimé par. Il a dû coacher aussi en assistant à Milwaukee, je crois.
Ouais, enfin, l'effectif, il reste le même quand même. Hein, faut pas l'oublier, à Milwaukee.
Hein. Alors, mais par contre, là, il faudrait virer soit Wagner, soit Banquero. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est qui va faire le voyage inverse.
Que tu mets dans
parce que là, niveau salarial, il va falloir mettre un paquet de joueurs.
On passe à la dernière news, mais qui n'est pas des moindres. La réforme de la draft pour lutter contre le tanking. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le Board of Governors, hein, c'est-à-dire la bande, voilà, les principaux responsables, les propriétaires de franchises, a validé la réforme de la loterie dès 2027. Les trois pires bilans seront désormais pénalisés.
Ça, c'est laquelle franchise qui a voté contre ?
Les Grizzlies. C'était pas, ils se sont fait avoir. Donc, la loterie passe de 14 à 16 équipes en intégrant toutes les franchises qui ne participent pas au play-off, hein, y compris celles sorties du play-in. Alors, pour faire simple, finir tout en bas ne donnera plus l'avantage maximal. Au contraire, ça coûtera des chances de décrocher le premier choix et les trois pires équipes auront toutefois un plancher puisqu'elles ne pourront pas tomber plus bas que la 12e place. Tandis que les 13 autres pourront glisser jusqu'au 16e rang.
Il va encore y avoir des calculs, mais pas pour finir. Troisième moins bonne équipe,
mais c'est ça le problème. Ça va être des calculs, ça va être...
Ah oui, ça va être encore des calculs.
Tu peux pas avoir deux années de suite le pic numéro 1.
Waouh.
Plus qu'une minute.
D'accord, okay. Oh la vache. Bah, la NBA ajoute également des garde-fous. Hein. Une équipe ne pourra pas obtenir le premier choix deux années de suite, ni enchaîner trois top 5 consécutifs. La Ligue pourra aussi réduire les chances ou modifier la position d'une franchise suspectée de tanking. Donc le message est clair, perdre ne doit plus être une stratégie. Et en termes de probabilité, ça donne ça. Le pire bilan, c'est 5%. Pareil pour le deuxième et le troisième pire bilan. Ensuite, on passe à 8% pour le quatrième pire bilan jusqu'au dixième. Donc là, ça équilibre vachement les chances d'avoir le numéro 1 de la draft quand même, enfin c'est 8%. Et après, on tombe à 5,4%, c'est-à-dire que les pires bilans ont la même chance que le 11e et le 14e. Du 11e au 14e. Je ne sais pas si les auditeurs sont encore là. C'est un peu compliqué.
C'est bientôt le bac.
Il y a quelqu'un ?
Allez, c'est parti, on a fini les actus. Bon, je veux la ref.
Pas possible.
Ah. Vous avez la ref ?
Shaft ?
Ok. Bon, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, avant les finales NBA, se jouaient les demi-finales. Ou plutôt ce qu'on appelle les finales de conférence. Eh oui. On aura eu le droit à deux extrêmes cette année. Hein. Une série avec relativement peu d'intérêt et encore moins de suspense à l'Est. Et une autre indécise jusqu'au bout et plus tendue qu'une visite de Vladimir Poutine au Forum de la Paix. Le point commun entre les deux, un game one d'anthologie marqué du saut de la prolongation, une légende à raconter aux enfants pour notre Wemby, un traumatisme de famille à garder bien caché pour les Cavs. On commence par la première série, le Knicks Cavs 4-0, un bon coup de balai, un comeback monumental des Knicks lors du game one qui a achevé mentalement une équipe des Cavs.
Et ils ont gagné les Cavs, non ?
Ils ont gagné. Alors attends, oui. Alors selon analytiquement parlant,
selon ils ont gagné. Les Cavs ont gagné.
Ils ont gagné. Ils ont gagné. Statistiquement.
Justement.
Ils ont gagné.
Alors James Harden a fait de la déliquescence dans les moments chauds sa signature. Ça avait pourtant bien commencé pour les Cavs, largement en tête dans le premier match, et puis patatras. What the fuck, les gars.
Je crois que c'est à ce moment-là où tout s'est éteint.
C'est ça.
On a l'impression que c'est terminé.
Qui a éteint le Garden à 8 minutes de la fin ?
22 points.
22 points d'avance.
22 points d'avance. Terminé. La série, la série s'est terminée là.
22 points d'avance à 8 minutes 40 de la fin.
Le dernier match, ils en prennent combien ? Moins 37.
Ouais, il est complètement abandonné là.
Ouais, le dernier match. Ouais, le dernier match. Non, mais 137-130-83.
Sur le match 1 en 4, Brunson, il pouvait shooter les yeux fermés.
Ah, bah il a terminé le match.
Le panier, c'était une bassine.
Bon, oui, après, son défenseur, c'était James
Harden. Après, t'as trois autres matchs derrière pour te rattraper quand même. Quand t'arrives chez toi et que tu
trois autres matchs.
Oui, c'est ça, minima. Les deux matchs à Cleveland, on a l'impression qu'ils n'ont pas joué Cleveland.
Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que le premier match était tellement traumatisant ? Il les a tellement flingués mentalement qu'après, derrière, ils n'étaient plus là.
Plus les gens.
Alors, à un moment, normalement, les séries, c'est à l'intérêt aussi des playoffs, c'est que tu t'adaptes, quoi.
Ouais, exactement.
Alors justement,
ils se sont bien adaptés. Plus ça allait, plus ils en prenaient.
C'était bien ça, c'était bien.
Ça avait envie d'être en vacances. Mais c'est vrai que les ajustements tactiques d'Atkinson, on peut quand même s'interroger dessus. Enfin, je veux dire, tu vois qui, ouais, tu vois dans le match que
il lui reste 4 temps morts. Combien
4 temps morts. Pas Brunson qui attaque Harden. À un moment,
on change pas. Tu fais 3 temps morts. Tu fais.
T'as Kionedis sur le banc qui pourrait peut-être servir. Non. Bon, franchement, Atkinson, moi, il me déçoit énormément.
Donc, c'était une erreur coaching ou...
Bah, y a tout. Hein.
Sur le premier match, oui.
C'est l'ensemble, ouais.
Sur le premier match, oui.
Mais il a été confirmé à son poste, il sera bien l'année prochaine.
Ah bah, ça fait plaisir.
Ouais. Après, tu prends les deux effectifs, New York et Cleveland, à part Mitchell que tu peux mettre dans l'équipe de New York, Le reste, tu prends que les starters de
l'année. T'as Mobley, normalement.
Et Mobley pour mettre qui? T'as le choix entre Anunoby et Mobley. Tu vas me dire que tu prends Mobley?
Bah, jamais de la vie.
Ah, bah, voilà, voilà. Jamais de la vie. T'as Kat et t'as. Jarrett Allen, tu prends qui? Bah, tu prends 4, voilà. Ouais, c'est... Bon, ouais. Bah,
Non, mais
Bronson Harden, allez.
Bronson Mitchell. Bronson Mitchell.
J'hésite quand même.
Il est comme Bronson.
Moi, je mets quand même.
Et même Josh Hart et Wade, bah, tu prends Josh Hart. Enfin, voilà.
Après, tous les jours. Ouais.
Voilà, après, sur le poste de Mitchell, bon, tu peux prendre Mitchell. Ça se discute.
Ouais, enfin, on attendait pas.
Mais t'as plus de bons joueurs. T'as plus de bons joueurs à New York que à Cleveland.
Bon, d'accord.
Mais même au niveau des rotations. Au niveau des rotations.
On gagnait un, quoi. Ça aurait pas été...
Bon, bon, c'est mérité, de toute façon. Il n'y avait pas d'intérêt.
Vous avez entendu la belle sortie de Josh Hart sur les statistiques, là? Il a dit les statistiques, c'est comme quand t'es bourré, le lampadaire il te sert à t'appuyer dessus, mais il te ramène pas à la maison.
C'était pas mal.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.
Bon, avec moi.
Du coup, on s'arrête là pour cette série qui n'avait pas d'intérêt. On passe directement au Thunder Spurs.
Alors, ah si, il y a un grand intérêt dans cette série, c'est que New York est très bien reposé là.
Ah oui, bah, c'est ça. Oui, ça c'est clair.
Peut-être trop.
Ah! Oh là 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 là, ça y est!
Manque de rythme!
Manque de rythme! Ok, si, on en fait les frais. Hein.
Faut garder ça pour le débat qui suit.
Vous avez l'air mort.
Le Thunder Spurs, on savait que ça allait être serré, ça l'a été. Et même si on pourra toujours accorder au Thunder le fait d'avoir perdu ses deux meilleurs ailiers sur blessure, hein, le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, et son excellent suppléant, le belge qui fait rire personne, AJ Mitchell. Les Spurs, leur jeunesse et leur maturité, j'adorerais que mon fils en prenne note. Jeunesse et maturité ont créé un exploit que peu d'ont moi pensé possible, remporter deux matchs de suite pour clore le débat. Après un premier match, quand même, qui était absolument dantesque, double prolongation. Boembi, 40 points à 19 rebonds, c'est ça?
Ouais,
c'est
pas bien. 40, 19,
combien de contre? Je sais plus, enfin, vraiment monumental, quoi. Alors, les gars, cette série?
C'est à l'image de ce qu'on attendait. Après. Je pense que le mode guerrier de Wemby fait quand même changer beaucoup de choses dans l'équipe.
Dans l'équipe, oui. Ouais.
Même si l'équipe est devenue super forte en tout temps, je pense que Wemby a réussi à amener un truc.
Oui, oui, il emmène quelque chose.
Il n'a pas réussi à faire
quoi d'abord sur le terrain, ça se voit.
Ils sont jeunes, je veux dire la moyenne d'âge.
C'est 25 ans. Voilà. Deuxième plus jeune moyenne d'âge pour un finaliste NBA.
Ils ont joué plus, mais ils sont plus jeunes aussi. Donc
et la force de Wemby, c'est de rendre meilleurs les autres.
Oui, ouais, carrément. Ouais,
mais déjà, quand il était à Nanterre, les mecs autour étaient bons, en fait. Il a une.
Cassel, Harper.
Il doit avoir un leadership qui doit être vraiment grand.
Alors, ouais, et en même temps, ça s'est vu dans le mauvais sens aussi, c'est-à-dire dans le game 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas si vous voyez, il était complètement cramé.
Ouais.
Et là, tu vois que derrière, il n'y a plus de répondant nulle part, quoi. En fait, il était. Moi, je pense qu'il était vraiment fatigué, de toute façon, il était cerné.
Après, il gagne des matchs sans lui aussi. Hein. Quand il était blessé, ils ont quand même bien gagné des matchs.
Ouais, quand il était blessé. Mais même par exemple, au premier tour, ils ont gagné, mais ils affrontaient Portland. Là c'était OKC, okay, c'est vrai que c'était.
C'est pas pareil.
Ouais, c'est pas pareil. Donc,
Et il y a une chronique du match en même temps entre San Antonio et OKC. C'est dès que Victor s'éloignait du cercle, OKC gagnait. La vraie solution, c'est vraiment d'arriver à l'éloigner du cercle. Mais alors. Faut se lever de bonheur. Faut se lever très tôt. Hein.
D'ailleurs, on a une pensée pour Chet Holmgren.
Magnifique dernier match.
On n'aime pas trop Chet.
Belle statistique.
Et ce dernier match, dunk aussi. Il était magnifique, le dernier dunk de.
Sur sa tronche.
Il
me faisait mal au cœur quand même.
Il m'a quand même fait un peu mal au cœur, le pauvre gars.
Tu sais que c'est un mec quand même qui a toujours joué contre des gens qui étaient plus petits que lui. C'est la première fois qu'il voit un mec qui est plus grand que lui. Ça doit faire bizarre quand même.
C'est sûr.
On a un gros programme, je me dois de.
Ouais. Alors on va passer à la suite, hein, du coup.
Ah, direct.
Ouais.
Ah, sans transition. Ah, ok, ouais. Bah écoute, on y va.
On stop les cheaters.
Ah oui, là.
Ok, cheater.
Pourquoi ça part pas ta musique?
Si, ça prend un peu de temps.
Ah, d'accord.
Ah, comme ça.
Ouais, voilà, comme ça.
Je veux toujours aller trop vite, mon peu fa.
C'est ce que certaines disent.
Laissez les femmes tranquilles, monsieur. C'est pas leur endroit.
Ouais, je me suis pris une cartouche par Mehdi à la dernière émission, mais on n'est plus écouté.
Patrick.
Bon, il est temps de passer à notre billet du mois, le basket et WAM. Et aujourd'hui, on va parler 27 ans plus tard. Et pour aller avec les 27 ans plus tard, il faut la bande-son. Je sais pas si vous avez la ref aussi. Hein. Non, on en parlera après. Le temps passe trop vite. Pour un mec comme moi qui s'approche très dangereusement de la cinquantaine, c'est un fait. Pour un supporter des New York Knicks, c'est l'inverse. 27 ans d'attente pour rejouer des finales NBA, rendez-vous compte, le temps passe trop lentement. Ça explique sans doute les scènes de liesse hein, ou de débordement qui ont agité New York au lendemain du gros coup de balai qui a renvoyé une fois de plus le barbu loser le plus connu de l'histoire de ce sport devant sa télé avec Kenny Atkinson, ce brave Kenny qui reste persuadé, mais il n'y a que lui, qu'analytiquement parlant, les Cavs sont en finale. La dernière fois que New York a connu des finales, justement, c'était en 99. J'étais étudiant, j'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, et à vrai dire, j'étais pantois devant le parcours des Knickerbockers, pardon, puisque c'est ça leur vrai nom, qui, bien que 8e à l'issue de la saison régulière, avait créé l'exploit de sortir le Miami Heat, pour ceux qui l'ignorent encore, mon équipe préférée. Premier de l'Est, après une saison raccourcie par un lockout, je sais pas si vous vous souvenez, en 99, on a joué très peu de matchs, il y a eu une grève des joueurs. Et tout ça s'est terminé sur un shoot miraculeux d'Alan Houston en des temps révolus où le premier tour se jouait au meilleur des 5 matchs. Alors pourtant, le parcours des Knicks était d'autant plus improbable que Pat Ewing, la légende et franchise player incontestable de Gotham, allait se blesser lors du Game 2 des finales de conf contre les Pacers d'une autre légende, Reggie Miller. La finale contre San Antonio, tout un symbole, sera de trop pour Latrell Sprewell, Larry Johnson, Marcus Camby et consorts qui, épuisés, ne pourront pas empêcher les deux Twin Towers des Spurs, bah tiens donc, David Robinson et Tim Duncan, de soulever le premier d'une belle série de trophées, des trophées Larry O'Brien. 27 ans plus tard, New York n'est plus le petit poussé qu'il était. Après des années de vaches maigres, les supporters du Garden n'ont eu à se mettre sous la dent que des cartons offensifs, mais en réalité inoffensifs, de Carmelo Anthony, ou la hype de la l'insanity. On reviendra un jour sur cette histoire folle, typiquement new-yorkaise, dans laquelle un jeune garçon anonyme d'origine taïwanaise explose brutalement à la face du monde en jouant comme Kobe pendant un mois de février 2012, où les Knicks sont privés d'une grande partie de leur effectif. Mais ça, ce sera pour plus tard. Après un désert de 27 ans, donc, New York retrouve le devant de la scène dans la continuité de deux belles campagnes en 2025 et 2024. 27 ans, à bail donc pour un mec comme moi, une éternité pour un mec de Manhattan, puisque 27 ans, faut-il le rappeler, c'est le temps dévolu pour faire naître et mourir une rockstar comme un Kurt Cobain, un Jim Morrison ou un Jimi Hendrix. C'est aussi le temps nécessaire pour faire éclore et disparaître un talent à Brandon Roy, rien à voir avec la série Succession, hein. Ou de façon encore plus tragique à Reggie Lewis, disparu en pleine guerre, en pleine gloire, pardon. En 27 ans, le monde a changé. Internet est devenu le fluide vital qui inonde de joie et de bêtises notre monde décadent. Donald Trump est passé du statut d'entrepreneur richissime mégalo-débile à celui de président des États-Unis mégalo-débile. Les tours jumelles, telles qu'on les a connues, ont volé en éclats. Je parle pas de Robinson et Duncan. Hein. Et mes longs cheveux bruns ont disparu, emportés par plusieurs saisons régulières apocalyptiques de Miami.
Les longs, longs.
Eh ouais, je les ai eu longs. Ouais. Une chose va pourtant perdurer, les amis, pas très loin de Times Square, au niveau de la 7e avenue, entre la 31e et la 33e rue, 27 ans plus tard. Les mecs qu'on va voir débouler dans la Mecque du basket sont des underdogs, comme en 99. Josh Hart of the City, OJ Anunoby Big Apple, Michael Manhattan Bridges, Carl Anthony Downtown iront sur le terrain pour y laisser leur trip, rangé derrière celui qui est déjà le plus grand little big man de l'histoire de la franchise, Jalen Brunson, le justicier dans la ville. Cette nuit, à 2h30 du matin, le French Goliath du Texas ne devra pas sous-estimer le David Dreadlocks qui se tiendra fermement devant lui, sous peine de s'en reprendre une bonne, comme il y a 3000 ans. Et comme cette finale est un remake de celle de 99, l'heure de la revanche a sonné. Voilà. Eh bien ?
Ça pose l'ambiance.
Ouais, c'est ça. Bon, on est tendu une petite pause musicale. Après, on attaque le gros dossier.
Ah oui, le dossier. Hein.
Allez,
le fameux dossier. Bah, ouais, je peux dire ce que c'est quand même, non, c'est mieux.
Vas-y,
si ça te dérange pas, bien sûr. On va écouter The Moment of Truth, bizarrement, Moment de vérité, de Gangstar, donc j'ai envie de dire le duo légendaire du rap, de la culture hip-hop, donc DJ Première, Gourou, REP à lui d'ailleurs. Ce morceau résume très bien ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau de l'NBA. Voilà.
Yeah! Ah, vas-y, envoie la purée.
No matter what we face, we must face the moment of truth, baby.
They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lace tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust, but I can't jeopardize what I've done up to this point, so I'ma get more guys to help me run the whole joint. Cultivate, multiply, motivate, or else we'll die. You know I'll be the master of the who, what, where, and why. See, when you're shining, some chumps will wanna dull ya. Always selfish, jealous punks will wanna pull ya down, just like some shellfish in a bucket, cause they love it to see your ass squirm like a worm. But just as you receive what is coming to you, everybody else is gonna get this too. I ain't no saint, therefore I cannot dispute that everyone must meet their moment of truth. Actions have reactions, don't be quick to judge. You may not know the hardships people don't speak of. It's best to step back and observe with coup, for we all must meet our moment of truth. Sometimes you gotta dig deep. When problems come near, don't fear. Things get severe for everybody, everywhere. Why do bad things happen to good people? Seems that life is just a constant war between good and evil. The situation that I'm facing is mad amazing. To think such problems can arise from minor confrontations. Now I'm contemplating in my bedroom pacing. Dark clouds over my head, my heart's racing. Suicide? Nah, I'm not a foolish guy. Don't even feel like drinking or even getting high, cause all that's gonna do really is accelerate the anxieties that I wish I could alleviate. But wait, I've been through a whole lot of other shit before, so I ought to be able to withstand some more. But I'm sweating though, my eyes are turning red, and yo, I'm ready to lose my mind, but instead I use my mind. I put down the knife and take the bullets out my nine. My only crime was that I'm too damn kind, and now some scandalous motherfuckers wanna take what's mine. But they can't take the respect that I've earned in my lifetime, and you know they'll never stop the furious force of my rhymes. So like they say, every dog has its day, and like they say, God works in a mysterious way. So I pray, remembering the days of my youth, as I prepare to meet my moment of truth. Yo, I got one lyric pointed at your head for start. Another one is pointed at your weak ass heart. Now if I pull the trigger on these fully loaded lines, you're gonna wish I would've pulled a black nine. I'm Mac Dimes, crack the spines of the fake gangsters. Yeah, the biting trifling niggas and the studio pranksters. Yo, looking at the situation plainly, will you remain G, or will you be looked upon strangely? I reign as the articulator with the greater data, revolving on a task and much doper than my last jam. While others struggle to juggle tricky metaphors, I explore more to expose the core. A lot of MCs act stupid to me, and we have yet to see if they can match our longevity. But anyway, it's just another day, another fake jack I slay with my spectacular rap display. Styles smooth but rugged, you can't push or shove it. You dig it and you dug it, cause like money you love it. The king of monotone with my own throne, righteously violent prone. My words bring winds like cyclones, storming your hideout, blocking out your sunlight. Your image and your business were truly not done right. Throw up your hiala now, divine saviors. You got no hand skills, there's no security to save you. No pager, no celly, no drop top Benzie. I came to bring your phony hip hop to an end. My art of war will leave you sore from the abuse, cause you must meet your moment of truth. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.
Merci, c'était cool.
Ah, c'est un top morceau celui-là.
Ouais,
pour clin d'œil, ils sont de New York, effectivement.
Voilà. Bah justement, une finale historique, une confrontation mythique, un combat épique. Honnêtement, après des playoffs plus que moyens en termes de niveau de jeu, le destin a décidé de nous régaler. D'un côté, le général Bronson, mix de Napoléon, Joe Dalton et Shaft. De l'autre, un jeune empereur en devenir, mélange d'Alien et de Walker Texas Rangers, et évidemment toute une ribambelle de joueurs incroyables, plus ou moins expérimentés, motivés comme des gamins hyperactifs au salon du bonbon. Parce que cette finale ne peut se résumer à un simple duel des extrêmes, hein, même si presque 40 cm d'écart séparent le meneur des Knicks et le pivot des Spurs, on va aborder donc différents aspects qui vont déterminer le cours de ces finales. Et est-ce qu'on est vraiment obligé de désigner un vainqueur entre Spurs et Knicks, sachant que Jeremy Sohan, transféré de San Antonio à New York en cours de saison, sans jouer ni avec les uns ni avec les autres, est le seul joueur des finales qui est assuré de repartir avec une bague.
Ouais, si Spurs veut lui donner.
Alors, il aura une bague, quoi qu'il arrive, mais il sera considéré comme champion que si les Knicks gagnent.
Ouais, d'accord.
Ouais, il ne sera pas considéré champion si les Spurs gagnent.
Si les Spurs veulent bien lui donner une bague. En
plus, il faut qu'il la réclame. Ouais.
Ouais. Bon, c'est bizarre cette histoire. En tout cas, on va commencer, messieurs, par Wemby Brunson, le duel des génies de l'extrême. Qu'est-ce qui veut se mouiller? On a quand même deux joueurs qui sont des superstars, qui sont complètement à l'opposé en termes de jeu. Un meneur de jeu punchy, tanké, et un grand Échalas, qui est de plus en plus musclé quand même, hein, mais qui joue dans un autre registre. Pour vous, ça vous inspire quoi?
Comme ça.
Je sais pas si c'est un duel entre les deux. Ouais. Je vois pas Wemby contre Brunson.
Ouais, mais dans l'aura, il y a quelque chose. Hein.
Ah, dans l'aura. C'est pas le même style de jeu.
Wemby tous les jours, du coup.
C'est deux guides parce que c'est français.
C'est deux guides pour leurs équipes.
Deux leaders.
C'est des leaders d'équipe.
C'est pas le.
Ils sont capables de faire changer le match. C'est surtout ça, de faire tourner le match. Pour leur équipe, en fait.
Après, tu sais que les deux, ils vont mettre 20 points à chaque match, minimum.
Ouais, c'est vraiment le tarif minimum.
Il y en a un qui va faire 10 passes et l'autre, il fera 10 rebonds, minimum.
Ou 10 contre.
Ou 10 contre.
Il y en a un qui peut tout faire. Hein. Il peut mettre 10 partout. Hein,
donc. Par contre, il y en a un, quand il reste plus que 5 minutes à jouer dans un match, il est très très fort. Quoi. Ouais,
c'est ce qu'on allait dire. Hein. Alors, Wemby a été parfois malmené ou cramé. Hein. On a parlé du Game 5 tout à l'heure, mais à chaque fois, il a été capable de rebondir derrière un mauvais match ou un match en demi-teinte avec des pertes de mammouth et puis surtout un impact défensif qui est décourageant pour l'adversaire. Wemby, il change tout en fait sur un terrain.
Bien sûr. Et de toute façon, ça se sent. Hein.
En tant que joueur et en tant que leader d'équipe, c'est surtout ça. Il y en a beaucoup qui parlent de Mamba mentality sur Kobe, mais lui, je trouve que c'est pareil. Il a une mentalité d'acier pour un mec qui a 22 ans.
Mamba mentality, c'était quand même individualiste. Enfin, au début de sa carrière, c'était tout pour sa gueule, quoi, Mamba mentality. Là, c'est un autre état d'esprit.
Il crée tellement des liens forts, comme tu disais tout à l'heure, là où il passe. Quand il était au Mets, on le voyait, en fait. C'est comme une bande de potes, en fait. Et là, je pense que les Spurs, c'est un peu ça aussi. Il a entraîné tout le monde dans quelque chose.
Il joue déjà le rôle de grand frère, c'est ça qui est étonnant. Il a 22 ans et tu vois parler...
Le mec, on dirait qu'il a une expérience. On dirait que ça fait 10 ans qu'il est en
NBA. C'est un vétéran.
Parce que dans sa tête, il est hyper mature. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il veut arriver. Il est là où il veut arriver, où il voulait être, en fait. Et il s'est toujours dit, dès l'âge de 10 ans, qu'il voulait être en finale NBA, qu'il voulait être champion NBA. Et je pense que dans sa tête, c'est ce qu'il veut.
À 22 ans, c'est quand même impressionnant.
C'est pareil, on parlait de Duncan. Parce que vous vous souvenez, quand Duncan est arrivé, en fait, c'est sa deuxième année où il est champion ou
deuxième.
C'est sa deuxième année. Et en fait, par contre, au niveau de l'attitude, tout ça, Wemby est vraiment très différent de Duncan. Wemby est très expansif.
Duncan, il y avait l'amiral qui était là.
C'est ça aussi.
Non, mais même, Duncan, ça n'a jamais été un grand communicant. Tu ne voyais pas s'énerver, tu ne voyais pas haranguer la foule, etc. Wemby, il est dans un autre registre par rapport à ça. Moi, je préfère les joueurs démonstratifs plutôt que les frigos.
On est d'accord.
Il l'est devenu parce qu'il ne l'était pas, par contre.
Ouais.
Je trouve qu'il l'est devenu justement parce qu'il a compris que ça allait faire partie de cette culture Spurs aussi. Il a créé un groupe de supporters, il a ramené beaucoup chez les Spurs parce que c'était un peu endormi. Il a emmené quelque chose de nouveau, un vent nouveau, et je pense que même sur la NBA, il a emmené quelque chose de nouveau.
On est d'accord.
Et ça fait du bien justement de le voir arriver là, en finale, là où personne ne l'attendait cette saison en tout cas. Je crois qu'il disait qu'ils ont 3 ans d'avance par rapport au plan qui était fait, qui était pas inscrit, mais en tout cas ce qu'ils se donnaient.
Puis l'expérience, ils en ont rien à faire, quoi. Enfin, il n'y a pas de niveau.
Non, ils disent que l'expérience justement, ils sont en train de se la faire.
Non, c'est les valeurs qui priment.
Ouais.
Clairement, je dirais Wemby, il a des valeurs qui ne sont plus aujourd'hui celles qui étaient la NBA il y a encore quelques années. Et il ramène justement ces valeurs qui étaient les valeurs premières de la NBA, c'est-à-dire la passion, c'est-à-dire show, c'est-à-dire tout ça. C'est ce qu'on n'avait plus, finalement.
Je rejoins au final. Je cherchais depuis tout à l'heure qu'est-ce qui pouvait définir la chose. Tu as très bien résumé, mais là, je pense que le mot à retenir, c'est ça. Il amène des valeurs qu'il n'y avait pas, en fait. Ce que tu dis, grand frère, mais même pas. Moi, je dirais, en gros, c'est un peu le chef de bande, mais
c'est ça.
De manière très...
Le patriarche.
C'est qu'en gros, les gars, suivez-moi, vous allez voir, quoi.
C'est ça.
Et ça va bien se passer, tu vois.
Que Brunson, moi, je trouve qu'il s'est construit dans la difficulté. Tu vois, d'abord, il est à Dallas.
C'est plus un revanchard, je trouve.
Ça marche pas, il est tradé alors qu'il voulait pas. Il arrive au Knicks et il tombe sur Thibodeau. Un truc incroyable parce que Thibodeau, ça a pas l'air d'être le mec le plus sympa du monde.
Il faut se rappeler du contexte. Tout le monde dit qu'il a signé un trop gros contrat au Knicks, quoi.
Enfin, mais en fait, Dallas voulait pas lui lâcher un gros pied. Ils ont préféré Kyrie Irving et derrière, lui, il
a explosé tout le monde dit, New York. Voilà, mais pourquoi il signe un gros contrat comme ça à New York?
On sait qu'il
Nico Harrison avait encore géré le transfert.
Ouais. Visionnaire.
Il a eu le nez fin aussi.
Ouais, c'est clair. T'imagines s'il était resté avec Doncic, c'est vrai que ça aurait été un sacré casse-tête. Ouais. Bah bon, avec Dessy, on pourrait tout refaire. Brunson, c'est 27 points de moyenne, en toutes circonstances, en saison régulière, en play-off. C'est une capacité à monter en température dès que le money time arrive. On sait très bien qu'il va avoir la balle dans les 5 dernières minutes. Tout le monde le sait. Tout le monde doit savoir, doit s'y préparer et défendre, mais on n'arrive pas à l'arrêter. C'est quand même fou, ça, pour un petit gabarit comme ça.
Ouais, puis ils arrivent bien à s'adapter, moi, je trouve, d'avoir mis Karl Anthony Towns en haut de la raquette pour lui éviter de subir la pression tout le match et de le conserver physiquement. Non, je trouve qu'il y a des bonnes adaptations. Alors, Mike Brand était un peu tensé au début de la saison, surtout quand ils font leurs 10 ou 12 défaites de suite, là, où il y en a un qui voulait changer de coach, arrivé à un moment. Et je trouve qu'il a bien réagi. Franchement, en play-off, le fait d'avoir mis 4 en haut de la raquette et le faire distribuer les ballons pour libérer la raquette...
Ça a tout changé dans le jeu new-yorkais.
Et ça va être un énorme enjeu sur la finale. Savoir, est-ce qu'ils vont réussir à faire sortir Wemby de la raquette? Voilà. Réponse cette nuit.
C'est ce que les Cavs avaient réussi avec Towns, un gênant sur le premier match, et qu'ils ont été incapables de refaire après par la suite. Sur le premier match, si tu regardes...
Les Cavs,
ouais.
Je connais pas.
Personne. Alors, vous savez, les séries, elles se jouent souvent avec un facteur X. Il y a souvent un gars de chaque côté qui va être le... qu'on n'attendait pas forcément très très haut, mais qui a un gros impact. Alors je vais vous demander, quel est pour vous votre facteur X de cette série chez les Spurs et chez les Knicks? Alors on y va, qu'est-ce qui veut se lancer chez les Spurs?
Champagny.
Champagny.
Champagny, facteur X.
Je pense qu'on aurait tous dit pareil.
On a tous mis pareil. Non, on n'a pas mis Vassell, on n'a pas mis Cassel.
Non, mais quand il met dedans, ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Quand il met dedans, ils sont imbattables.
Il mettait le truc, tu vois, c'est ça, c'est qu'ils lui ont redonné confiance. Parce qu'au début des séries contre Casey,
je vais faire le relou. Finissez, monsieur.
Et c'est un mec de l'ombre en plus, Champagny. Il ne veut pas la lumière et tout, c'est un mec en bout de chaîne. Tu sais qui me fait penser, moi, des Spurs? À Bruce Bowen.
Ah ouais.
Tu vois, exactement. Le mec qui défend.
Ouais, Évreux, qui a joué à Évreux. Ouais,
il va se foutre dans le coin, là. Il va se foutre dans le coin en attaque en disant: hé, les gars, s'il y a un ballon, je suis là. Ouais, mais vous embêtez. Non, mais
il nous prend la parole depuis tout à l'heure. Là.
Parlez, on t'écoute.
Moi, j'aurais pas dit Champagny. Moi, j'aurais dit Fox.
Oui, moi aussi.
Parce que voilà.
Fox, c'est pas faux non
plus. Bizarrement,
petit débat.
Le dernier match, il est là quand même.
C'est lui qui est important dans le dernier.
Je pense que justement, ils en avaient besoin qu'il revienne.
Et c'est Force qui fait.
J'aurais mis lui. Après.
T'as raison. Non, mais de toute façon.
Moi, je trouve que
c'est Fox ce qu'il fait.
C'est Fox ce qu'il fait.
Non, non.
Pardon. Ouais, il a réussi. C'était quand même le leader des Kings. Maintenant, il a réussi à s'adapter. Il est quand même payé super cher.
C'est un bon défenseur en plus.
Il fait quand même le.
On l'a vu.
Enfin, 50 millions à saison pour 15 points de moyenne à 30% au shoot.
Désolé. C'est pas le rôle qu'il a à San Antonio. Là, il paye le contrat, voilà, qu'il a signé avec les Kings de l'époque.
Mais pas en avant, justement. Moi, je trouve pour une star.
Moi, j'aime beaucoup d'Aaron Fox. Oui. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la rentabilité, là, on n'est pas.
Est-ce qu'il fait pas ce qu'on lui demande?
Après, derrière, t'as.
Enfin, fait le match qu'on attendait. Tu
oui.
Vois. Est-ce qu'il va faire là la même chose sur
le? Il a mis 15 points. Il n'a pas claqué 40 non plus.
Non, mais il a quand même.
Mais vaut mieux. Je suis d'accord avec lui, mais vaut mieux de, comme là, ils sont sur 5-6 joueurs qui vont tourner à 15 points.
D'accord.
Derrière, Fox ne fait pas le boulot. Mais t'as Harper derrière qui prend le relais, qui est un rookie, c'est complètement fou ce qu'il fait, je trouve que...
Mais pour revenir sur Champagny, parce que moi je suis d'accord avec Mehdi, Julien Champagny, devenu, au départ c'était un simple shooter à 3 points, tu l'as comparé à Bruce Bowen, et moi je trouve, effectivement au départ, on l'attendait dans son spot, point barre, mais je trouve que depuis que Wembanyama a concentré l'attention dans la raquette, etc., il est venu vraiment donner un coup de main. Il est parti chercher des points intérieurs. Au départ, il était vraiment unidimensionnel. Et là, maintenant, les adversaires sont obligés de s'occuper de Wemby, mais ils ne peuvent pas laisser non plus Champagny à 3 points. Et je trouve que c'est un très, très bon facteur X. Il a une gueule de facteur X, en tout cas pour San Antonio.
Le petit Bryant aussi, il n'est pas mauvais.
Carter, ouais.
Ouais.
Il est prometteur aussi.
Oui.
Et pour les Knicks, les gars, un facteur X?
Anthony Towns.
Le 4, ouais.
Ouais, 4 aussi.
Ouais.
Moi, je trouve pas que c'est un facteur X. Il va avoir les ballons et lui, c'est pareil. Il va mettre entre 15 et 25 points par match et ça va pas être un facteur X.
Moi, je mets un Unobi.
Ah, moi aussi.
Ah.
Et pas dans le fait de l'attaque.
Non,
en défense. Exactement. Parce que s'il y en a bien un qui peut embêter Wemby.
Putain, on est d'accord. Mais comment je t'aime.
Mais dis pas des trucs comme ça.
Si vous voulez, on sort.
Mais il n'y arrivera pas à l'arrêter Wemby. Moi, je.
Ils
vont gagner.
Je suis d'autant plus d'accord avec toi que Anunobi, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, contre Philadelphie, Embiid est en pleine bourre et il le détruit. C'est vrai. Anunobi qu'ils envoient dessus, il lui rend 15 cm. Bon, en tout cas, au moins 10 bons centimètres plutôt, et il lui a fait la misère. Et c'est typiquement le joueur qui peut sortir Wemby de son match, qui peut le harceler, moi, aller au contact, etc. Toi, tu
Wemby,
crois pas?
Il a une force mentale, vraiment, je pense qu'on sous-estime le gars, ouais. Vraiment.
Ah, mais je ne demande pas mieux, mais je pense qu'il va le gêner.
Tu sais, il lit beaucoup, il est très calme.
Dans le jeu, mais tu vois, Anunobi, c'est pas un mec méchant. Et c'est ça
ah
qui.
Oui, c'est clair.
Il vaut mieux mettre un Choroké, tu vois, un Dylan Brooks sur Wemby, il peut le faire sortir du match.
Ou un Joshua.
Si tu veux le faire sortir du match, il faut le pousser.
Mais de toute façon, ils vont se relayer dessus. Hein.
Oui, je pense. Et
va y avoir des tactiques de jeu. Ils vont essayer de leur pousser sur la ligne à 3 points. Moi, je pense qu'ils vont le laisser un peu shooter à 3 points, voir ce que ça donne. Puis après, s'ils commencent à mettre dedans, ça va devenir compliqué. Ouais, mais c'est chiant, un mec, il fait 2m24, il doit pas mettre de shoot à 3 points. Ça n'existe pas dans la vraie vie.
C'est une règle, ça. Ça devrait être une règle.
Du milieu de terrain, en plus. Hein.
C'est un cheat code.
Au-dessus de 2m10, t'as pas le droit de shooter à 3 points.
Ou alors du milieu de terrain.
Bon, les gars, comme on a encore pas mal de sujets, je voudrais juste aborder avec vous deux villes et deux franchises, les deux ambiances. Hein, le public, ça va avoir une importance. Les bonnes sœurs de San Antonio contre le Star System du Garden. Il y a que le basket, on disait à San Antonio, un petit marché en termes de marketing et une ville assez peu sexy, peuplée de gentils rednecks. Mais la véritable... Bon, si, c'est vrai. Mais la véritable institution et l'académie de basket des Spurs hors norme a été faite par Greg Popovich. Est-ce qu'on s'en remet à la fois des bonnes sœurs
sœur de Luc Cornet qui l'a ramené de Boston.
Ah, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ou est-ce que l'esprit, le fantôme, je dirais, de Greg Popovich, parce qu'on est plus sur du fantôme que d'ombre là, va planer sur ces finales NBA?
Tu veux le truc là.
Ouais, je l'ai
Il paraît qu'il est encore bien vivace en plus.
Je vais
leur mettre une petite soufflante dans le vestiaire, ouais. Apparemment.
Après le match 3, ouais. Après le match 3 contre OKC.
Et le monsieur, quand même, ce Popovich.
Ouais, un immense monsieur. Alors, face à ça, on a Spike Lee, Timothée Chalamet, Lenny Kravitz, une fanbase sans limite, capable de brûler les bus
adverses. Avec des places à 150 000 $.
Exactement. Ben Stiller, on pourra en oublier d'autres. Et on aura peut-être ce Donald Trump qui sera peut-être présent. Le New Yorkais le plus con de l'histoire, peut-il réussir l'exploit de gâcher les finales?
Oui.
Ça. On peut pas dire ça, là.
S'il vous plaît, oui.
Ah, okay. Reprenez-vous quand même, monsieur.
D'accord, ok. On ne fait pas de politique, mais ça, on s'en fout, c'est aux États-Unis.
Ouais, mais bon.
Ok. Ce qu'il va faire, pour terminer ce dossier, qu'est-ce qu'il va faire pencher la balance, les gars?
Le banc des
Spurs, le banc des...
Tu vois, on disait que OKC avait justement un banc bien fourni, et on pensait que ça allait faire tourner aussi. Tu vois, je trouve le banc, par contre, de New York très faible. Bah, très faible. 6, 7...
Les entrées de Gershon vont peut-être aider.
Ah, mais Chamet,
ah, merde.
Non, la jeunesse va l'emporter.
T'as Alvarado qui peut faire des bonnes rotations.
Moi, j'irais plus le rendu des gros joueurs.
Est-ce qu'on va avoir un statut du côté de New York qui va réussir à mettre un pied en
finale?
En finale.
Non, puis la folie de la jeunesse, je trouve que là, cette folie que les Spurs mettent, je pense que justement, ça peut...
Et ils incarnent quelque chose de nouveau, qui plus est. Hein. Ça, c'est important de le spécifier, et c'est important pour la Ligue, la NBA, c'est qu'ils dégagent quelque chose, cette équipe. Elle est comme tout le monde, finalement. Ouais. Elle est normale, elle est...
Dans tous les cas, la NBA, elle sera gagnante, que ce soit New York ou San Antonio, la NBA, elle est contente. Hein, David.
Après, moi, je pense que le banc ne fera pas la différence, parce qu'en finale, tu joues à 7... voire 8, oui. Quoi qu'il arrive, et ça ira pas plus loin. Et les deux franchises, ils ont 7-8 joueurs d'énorme qualité. Moi, je pense que la différence, qui peut vraiment être différent, c'est le côté intérieur des Knicks. Savoir, est-ce qu'ils vont réussir entre Kat et Mitchell Robinson
à tenir,
parce qu'ils sont courts sur l'intérieur. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas les Cavs, hein, sans y revenir encore une fois. Ouais, c'est que les mecs, pourquoi ils n'ont pas joué à l'intérieur?
Vous avez deux beaux intérieurs vraiment de formation. Ouais. Qui étaient vraiment...
Même trois, tu avais Thomas Bryant encore sur le banc, il est hyper costaud, lui.
La vision de la chose,
de toute façon, si Wemby joue près du cercle,
c'est foutu.
Les Spurs gagneront.
C'est est-ce que c'est pas le coaching, le facteur risque? Les deux coachs,
c'est ça. Ouais, tout à fait.
Et justement, tu parlais de Mitchell Robinson. Est-ce qu'il a une chance de mettre ses lancers francs vu qu'il a un petit doigt cassé?
Oh bah non, encore moins.
Ça va peut-être l'aider.
Et pourquoi il shoote pas à la louche aussi, lui? Il devrait shooter à la...
Et moi, je suis les Spurs, je vois que le match, il est serré, mais je fais du Akemich à longueur de temps. Ouais. Mais je l'envoie sur la ligne jusqu'à temps qu'il sorte.
Exactement.
Tu joues. En fait, le but, ça va être de faire des fautes à 4, très vite, pour qu'il y ait une rotation, et après, jouer sur Mitch le plus longtemps possible. Et s'il faut faire du Akemich, tu fais du Akemich. Il y a eu du Akeshak parce que Shaq était trop fort. Ah, oui. Là, tu fais des Akemich parce que Mitch, il est nul au lancer franc. Enfin, il n'y a pas de fait. Puis après, si jamais il arrive en mettre 2, bah, tu t'adaptes. Mais il ne faut pas dire, oh, c'est pas du basket, c'est pas... ça a une règle. Oui, ça joue et on joue avec.
Alors, est-ce qu'on a le droit de tirer les cheveux de Vassal et
non. Non.
Coup de coude non plus. Coup de coude, on n'a pas le droit non plus.
Pas pris. Okay. T'es pris ou t'es pas pris? Ça dépend. Attends. Mais c'est toujours pareil, t'es pris ou
ça va dépendre des arbitres. Ça va dépendre qui arbitre.
On l'a assez vu dans OKC. Oui, cette saison.
Oui, mais ça n'a pas marché. Ça n'a même pas fonctionné.
Ça a marché jusqu'au final, quand même, de conférence.
Ouais, non.
Visiblement.
Et la fatigue cumulée contre le Thunder, parce que 7 matchs, quand même, voilà.
Non.
Moi, je ne pense pas. Tu vois, justement, ils sont dans le rythme.
Ils ont gagné. Il ne faut pas l'oublier.
Je pense que c'est même là, tu vois, sur le premier match, je pense que là, New York, ils vont avoir du mal à se remettre en route.
Ils ont gagné, la finale. Il ne faut pas l'oublier.
Là, on dit la même chose, mais OKC sortait quoi d'un 4-0 ? Non, 2-4-0. Donc, ils étaient frais. Logiquement, largement plus frais que les Spurs. Et finalement, non. C'est justement, il faut garder le rythme. C'est un peu comme au foot. Ils disent la même chose. C'est plus dur d'arrêter.
Et la grosse chance des Spurs, c'est que les deux premiers matchs sont à San Antonio.
Ils ont l'avantage du terrain.
Et du coup, tu es dans l'euphorie et tu vas arriver dans une salle qui va être encore plus euphorique.
C'est sûr.
Donc ça va te donner...
Ça ne fait pas peur à New York du tout.
Ça ne se dit pas, ça. Tu prends les deux premiers matchs.
Ouais, okay. Carrément.
Et après,
ils ont fini.
Après, tu prends les deux autres.
Après, t'en prends un au Madison Square Garden.
Ce qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte que les Knicks sont hyper solides depuis le début, en fait.
Non, ils sont solides, mais ils vont craquer.
Ils vont craquer. Toute la saison, on a dit ouais, les Knicks, ouais, on les a sous-côté. N'empêche qu'ils sont en finale,
bien sûr,
sans forcer et avec des grosses bases solides. Et quand effectivement tu fais une analyse très technique, Mehdi, et merci, ça montre bien que au fond, les Knicks, il ne faut pas les prendre pour une équipe qui est un peu là par hasard. Non, ils ont tout préparé depuis le début.
C'est pas ça que je dis.
Voilà.
C'est pas ça, mais il ne faut pas sous-estimer non plus San Antonio.
On a deux belles équipes. On ne demande qu'une chose, donc c'est que ce soit des beaux matchs serrés. Mais... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas été super rassasiés en termes de contenu de jeu. Là, normalement, on a ce qu'il faut. À pronostic, il faut vous mouiller. Allez, hop, c'est parti. Tu commences, Mathieu.
Les Spurs.
Combien?
En 6.
4-2, donc.
Ouais.
Ok. Baptiste.
Spurs. 4-3.
4-3.
Moi, je suis
cette match.
Moi aussi, c'est Spurs aussi, mais en 4-2 ou 4-3, c'est pareil.
De Marie.
Moi, je fais confiance au Corgi qui a prédit le match, les matchs de...
4-3.
4-3, comme il l'a fait, comme Kaysi.
D3, 4-0. Pardon. moi, je vois un match 7. Donc, match 7 à San Antonio, 80% de chances de gagner, je dis San Antonio.
Ouais, alors vas-y,
MVP, Wemby.
Oh, ouais. Oui,
merci.
Alors moi, je dis 4-3 pour les Knicks.
Ouh, ils vont prendre le match 7.
Ça va être un truc de malade, je pense.
Ouais, j'aurais préféré à 4-2, mais plus à 4-3, je pense, à la fin pour les Knicks. Ouais.
C'est vrai.
Finir en 4-0 Spurs. On va pleurer le 17.
Non, t'inquiète pas.
Écoute.
Oui.
Ce serait une grosse erreur de sous-estimer New York de la part de San Antonio.
Non,
vraiment pas le sous-estimer.
Ils ont eu des play-offs faciles, New York. Arrêtez, ils ont pris Philadelphie, ils ont pris Atlanta avant.
Tu joues pour une bague. C'est plus pareil.
On l'a vu l'année dernière. On a bien vu
Indiana.
Attends,
les Spurs ont éliminé Minnesota, ont éliminé.
Il faudra jouer. Quoi qu'il arrive, il faudra jouer.
On mérite, les Spurs méritent.
Mais, oui,
mais le mérite dans le sport, ça suffit pas.
Les micros, hein.
Voilà.
Mais le jingle. Notre Karl Lagerfeld et Tarmac, Mathieu, nous présente aujourd'hui dans sa rubrique Sneaker Pimps une collaboration qui en a laissé sceptique plus d'un quand elle a été créée, puisqu'elle a réuni deux sports et deux entités cultes qui rien ne semblait pourtant lié à la base. Le temps qu'il trouve ses notes...
Il prend sa baguette, attends.
Ouais, attention.
Non, j'ai trouvé, en fait, je vous ai ramené quelques petites...
génial.
Petites pépites encore.
Exactement.
J'adore quand il fait ça. À la fin, une émission, il les offre toujours.
Non, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous les offrir, mais malheureusement, c'est compliqué.
On a une belle paire de Jordan. Vas-y, décris, Bruno, toi qui...
C'est une paire de Jordan noir avec le logo du PSG.
Attends. C'est une paire de Jordan noir, mais quel modèle? C'est le modèle le plus mythique de la gamme des Jordan.
C'est pas les 6, ça.
Ah, oh, les gars.
Non,
c'est sorti en 90.
C'est les 3
chiffres au hasard.
Non.
Les 4,
non. Non, on y fait, de toute façon, là, vous avez tout dit.
Ouais. Est-ce que je peux dire un chiffre? Parce que moi, j'y connais rien.
42.
Le 5.
Merci. Jordan 5.
J'étais
juste autour, merde.
Ouais, ouais. Désolé, je suis un culte. Hein.
Ok, bah, pour moi, c'est la plus belle des Jordan. Quand elle est sortie en...
C'est l'une des plus belles, effectivement.
À l'époque, en 90, c'était unique à voir. Pardon.
Voilà,
c'est
il faut parler, c'est la radio.
C'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un crossover unique dans le sport avec la collaboration entre Jordan Brand et le Paris Saint-Germain. Et c'est pas juste un partenariat marketing. En tous les cas, c'est probablement l'un des plus gros tournants culturels du sport moderne, qu'il soit basket ou football. Quand les deux marques s'associent officiellement en 2018, elles cassent les frontières qui semblaient impossibles à casser. Celle entre le basket américain et le football européen. Avant ça, Jordan appartenait presque exclusivement à l'univers du basket. Le Jumpman, qui représentait Michael Jordan, la NBA, les playgrounds, la culture hip-hop américaine et les sneakers. Donc voir ce logo sur un maillot de football était impensable il y a quelques années. Pourtant, le PSG devient le premier club de football à porter officiellement la marque Jordan en Ligue des Champions. Longuement décriée, cette collaboration va beaucoup faire parler. Alors, pourquoi le PSG, me direz-vous? Parce que Paris est bien plus qu'un club de foot. Paris est LA ville où Michael Jordan est venu quand il a été drafté en 1985.
84
5.
Il est venu en 85.
Il a été drafté donc en 84.
Okay.
On se souvient tous de cette photo au Trocadéro, avec la tour Eiffel en fond. Oui, Mehdi.
Si c'est pris une balle perdue.
Ah d'accord.
Bruno qui a tiré dessus.
Ok. Les écoute pas. Non mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Le PSG incarnait donc une image, la mode, le luxe, la musique, la nightlife, la culture urbaine. Là où beaucoup de clubs vendent du football, Paris vendait déjà du lifestyle. Nike l'a compris très tôt. Associer Jordan à Manchester United ou Milan AC aurait eu du sens sportivement, mais pas culturellement. Paris était donc la ville parfaite. Et c'est là que tout change. Le football entre dans l'univers du streetwear. D'un coup, le maillot devient une pièce de mode. On ne le porte plus uniquement au stade, on le porte avec un cargo, une paire de Jordan 4, une veste oversize. Les collections de Jordan PSG apparaissent dans les clips, les fashion week, les shooting lifestyle. Les artistes, rappeurs, influenceurs portent des pièces sans forcément suivre le football. Mais pour Jordan, c'est aussi une révolution stratégique. La marque comprend qu'elle peut dépasser le basket et devenir une marque culturelle globale. Grâce au PSG, Jordan entre dans le football sans perdre son ADN. Au contraire, le football apporte une nouvelle audience mondiale à la marque. En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie, énormément de jeunes découvrent Jordan à travers le PSG, avant même de s'intéresser à Michael Jordan. Sur Reddit, beaucoup expliquent justement que Jordan fonctionne parce que la marque est devenue plus grande que le basket. Et bien sûr, pour Paris et le football en général, l'impact est énorme également. Le PSG ne devient plus seulement un club français, il devient une marque mondiale de mode et de culture. Les boutiques ressemblent à des concept stores, streetwear, les collections se vendent comme des drop sneakers. Certaines pièces deviennent collector, comme celle que je vous ai ramenée, extrêmement rare. Donc là, c'est un jersey Jordan. Donc il est complètement tissé. Hein, donc c'est ultra rare, je vous le fais passer. Voilà, avec donc le logo Paris devant brodé, le numéro 23, et bien évidemment, on retrouve le nom de Michael Jordan derrière. Donc ça, pour info, à l'époque, ça valait 150, 170 euros. Aujourd'hui, c'est coté à plus de 1000 euros. Extrêmement rare. Il n'y a eu que, on va dire, 500, 800, entre 500 et 800 pièces qui ont été produites. Et donc aujourd'hui, ça ferait vraiment un objet collector. Je vous ai également ramené la paire de baskets iconique, hein, la Jordan 5, bien évidemment. Donc la première, pour moi, ça a été une révolution dans le basket parce que c'était le premier athlète à intégrer des parties transparentes, donc sous la semelle, avec le Jumpman qu'on voyait pour la première fois apparaître.
13 minutes, mon gros.
Ah, on y va. Le troisième, et puis bien évidemment, les logos Paris et le Jordan qui détournent un petit peu la tour Eiffel. Dans les années 90 et 2000, le streetwear était vu comme une sous-culture. Puis les marques comme Supreme, Off-White ou autres changent les règles. La collaboration PSG-Jordan arrive exactement dans cette époque-là, où un survêtement peut défiler à la Fashion Week et où une paire de sneakers vaut autant qu'un sac de luxe.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai.
Aujourd'hui, une collaboration est devenue une référence mondiale. Même les nouvelles collections Jordan Wings et PSG parlent directement du croisement entre football, luxe et streetwear. Voilà. Donc, pas convaincu. Encore une petite chose, l'équipe nationale du Brésil vient juste de dévoiler ses nouveaux kits pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, Jordan Brand en fait partie.
D'accord.
Ah bien.
Voilà.
Ouais. C'est con l'Italie, si on y avait été, on aurait peut-être fait...
Oui, bon, écoute,
exactement.
Un joli maillot.
Dans 10 ans, on verra.
Dernier chiffre, quand même, qui paraissait intéressant. Il y a 15 ans, PSG vendait 100 000 maillots par an. Aujourd'hui, il est à plus de 2 600 000 maillots par an. Rendez-vous compte.
Ouais. C'est énorme.
Voilà.
Quand tu gagnes la Ligue des Champions tout de suite.
Ça aide. Hein.
Ouais, bah, c'est bien, on a fait la petite transition avec l'actualité. Mmh. Allez, c'est parti pour le buzzer beater. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three. Notre buzzer beater du jour, pas de doublé depuis 2018. Pourquoi est-ce que conserver son titre en NBA, c'est devenu mission impossible ? Messieurs, vous avez une idée sur la question ?
Il ouais, faut être au complet.
Bonne question.
On ne peut pas avoir de blessés. Là, les deux équipes qui arrivent en finale.
On t'entend pas bien.
Les deux équipes qui arrivent en finale, c'est deux équipes complètes. Il n'y a pas eu de blessés, pas eu de... Et ça arrive quasiment plus. Quoi. Ou c'est plus la même équipe qui arrive à être, qu'à sortir indemne de la saison régulière.
Saisons sont longues.
Ouais.
Trop longues, on a déjà dit.
Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois. La gestion de ton effectif, elle est super importante.
Justement, les effectifs, normalement, ils se renforcent aussi particulièrement. Je ne sais pas si vous trouvez aussi, mais d'une saison à l'autre, maintenant, il y a des équipes qui sont bonnes, qui font des ajustements et qui deviennent ultra compétitives. Est-ce que ça joue ? Est-ce que...
Non, puis les autres, puis les équipes s'adaptent aux champions.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Tu les étudies, tu les joues déjà en saison régulière, donc tu commences à trouver des ajustements. Et il faut pas oublier qu'au KC, il y a quand même Jay Mitchell qui est sur le carreau depuis le match 4.
Jalen Williams
qui est jamais revenu.
Ah ouais, c'est
et c'est un mec qui te met 20 points par match.
Ça, c'est fou.
Arrive un moment, t'as deux mecs qui te mettent 20 et 15 points par match, même si Shea est très fort. Arrivé à un moment, il te manque du monde. Même si McCain a fait le travail, on dit rien par rapport aux remplaçants, mais les remplaçants sont moins forts. Et Jalen Williams, l'impact physique qu'il a amené l'année dernière
du côté du terrain,
sur les matchs, c'est un bœuf le mec. Mais bon, il l'a payé, il s'est pété, et à mon avis, il ne reviendra jamais à son top niveau.
Alors justement, tu étais très pessimiste, mais justement, la fatigue accumulée dans des saisons qui sont de plus en plus éprouvantes, on en a parlé, mais on oublie aussi de dire que les saisons sont rallongées pour les équipes qui vont loin, les équipes championnes. D'ailleurs, si vous regardez les finalistes de l'année dernière, OKC... Blessure importante de Jalen Williams.
Indiana,
c'est encore pire. C'est rupture du talon d'Achille. Francis Payer out.
Ouais.
Pas de playoff, saison catastrophique.
Ils ont lâché la saison.
Ouais. C'est pas la même. Voir.
Aussi, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les campagnes, quand tu fais une saison régulière, plus les Spurs ont un match de plus, les Knicks aussi, avec la finale du in-tournament, plus des campagnes qui vont loin, puisque tu rajoutes au moins 15-16 matchs, dans le meilleur des cas, pour aller chercher un titre. Ça fait beaucoup et les organismes ne sont pas capables de tenir. Ça explique ça peut-être ?
Les Spurs, ils sont à 4 matchs de plus là, par rapport aux Knicks. Hein.
Ouais.
Ils ont joué 4 matchs de plus.
Ils ne vont pas le payer la saison prochaine, du coup.
La saison prochaine.
Peut-être.
Sur tous les sports, ça arrive.
Et Wemby va jouer avec l'équipe de France cet été.
Il y a beaucoup de joueurs qui vont aller jouer avec leur équipe nationale aussi.
Donc ça joue aussi.
Oui.
La présence en équipe nationale.
Après, dans tous les sports, je pense que les gestions d'effectifs, ils sont hyper importants aujourd'hui. Je pense que c'est le point clé pour arriver jusqu'à une finale dans n'importe quel sport. Il faut savoir gérer son effectif.
En même temps, tout s'est amélioré, la récupération aussi.
Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas les blessures, ça n'empêche pas qu'ils se pètent toute l'année.
Ils sont plus performants, les joueurs sont plus performants, ils ont amélioré la récupération, tout augmente.
Il y a un truc important aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des préparateurs physique également, avec des nutritionnistes, avec tout ça. Et je trouve que les jeunes générations, maintenant, elles font de plus en plus attention à ça. Initié par Dembélé, par exemple, c'est juste un exemple dans le football, mais qui a complètement changé, qui a pris justement du physio, qui a pris des gens à côté, et qui, on a vu le changement.
Parce qu'il n'avait pas cette réputation-là à Barcelone.
Exactement.
Ah, mais là,
exactement. Et au basket, c'est pareil. Au basket, c'est pareil.
La
longévité de LeBron James, elle a
un peu.
C'est aussi pour ça que Doncic est allé aux Lakers. Ils l'ont mis un peu dans dans les pattes de LeBron pour qu'il retrouve une vie un peu plus saine par rapport à ce qu'il avait à Dallas. Hein.
Ouais. Alors après, est-ce que c'est possible à Los Angeles qu'on peut bien sortir?
Ouais. Pas sûr. Trop de tentations.
Regarde Doncic. Encore disponible au moment où ça compte. Oui. Et là, il va jouer avec son équipe nationale. Je crois qu'il a annoncé qu'il voulait jouer avec son équipe nationale. C'est de la folie.
Moi, je crois qu'il joue pas au mois de juillet là, avec l'équipe de France.
Il a quand même mis.
C'est l'info vient de Marie. Ouais. Elle m'a dit, moi, il est pas là.
Okay. Et Wendy okay. Ouais. Non, c'est pas sur les matchs, là. Après, il y a la Coupe du Monde au mois de septembre.
Oui, au mois de septembre.
Il va se dise au revoir, les gars.
Il va quand même se reposer tout le mois de juillet. Et oh, on coupe pas la parole aux gens comme ça. Donc, il va quand même se reposer.
Désagréable, là.
Et désagréable.
Non, mais.
Ah, c'est de ma faute, hein, c'est le
timing. Il faut cadrer les choses.
Qu'est-ce qu'il aurait fait, Wallace?
Ça laisse le mot de la fin à Hannibal.
Oh, tu veux le dire?
Ouais, allez. Vas-y, dis-le.
J'adore que les plans roulent sans accro.
Bon, prochaine émission le 17 juin avec Mehdi aux manettes.
Non, il n'est pas là.
Ah non, ils sont avec toi, Mehdi.
Il n'était pas là.
Vous verrez bien. Avec moi aux manettes. Voilà, c'était cool, les gars. On se donne rendez-vous, du coup, dans 15 jours. On saura.
Bonne finale.
Logiquement, on
saura. Qui est champion ou pas.
Ah, si les pronostics passent, normalement, on ne saura pas.
Non.
On verra peut-être.
Voilà, on verra.
Allez, go Knicks Nation.
Salut les potos.
Go Spurs, go.